écoute ma déclaration d'amour. Je fais ma déclaration d'amour.
Nous présentons aujourd'hui l'émission qui a été faite par des filles du lycée Montebello de Lille. Le sujet est citoyen du monde et cette émission va nous transporter du Japon au Cameroun à la Guadeloupe en passant par l'Italie et par le Maroc.
On va vous présenter comment se passent les mariages marocains parce qu'on est tous les trois d'origine marocaine. On va vous présenter comment ça se passe, les traditions.
Bah en fait, la coutume, elle veut que le mariage il se déroule en 3 jours. Le jeudi, du jeudi au samedi. Et voilà, on va vous détailler ces 3 jours.
Le jeudi, c'est réservé à l'acte de mariage. La famille, elle fait des papiers pour le mariage. Ils vont à la mairie.
Le vendredi, c'est le jour le plus sacré parce que c'est le jour de la prière. Et également aussi parce que c'est le jour où la mariée met du henné sur ses mains et sur ses pieds, le mari aussi. Le henné, c'est signe de joie, amour et de durée du mariage.
Et pour finir, le samedi, c'est la journée la plus festive. En effet, les familles, les amis et les proches des mariés sont à un grand gala qui commence en début d'après-midi et qui se termine le dimanche à l'aube. La fête est souvent animée par des groupes de musiciens, de la musique Jalal, Saïd, Senanji, du Shabi. On va commencer par les vêtements des mariés. Le jeudi, le marié doit porter un costume noir dans la tradition et la mariée une robe blanche, pas obligatoirement la robe de mariée. Le vendredi, c'est un ensemble blanc qu'on appelle un jabador d'homme, un pantalon et une tunique jusqu'aux genoux avec des babouches. Et la femme doit porter un caftan vert, c'est une genre de robe jusqu'aux pieds, très cintrée, avec des manches très évasées. Et le samedi, le marié doit porter un costard blanc. Et la femme se change maximum 7 fois, ou minimum 4 fois, avec l'aide d'une négafa, c'est une sorte d'habilleuse, qui lui amène les tenues, les bijoux. Mais de nos jours, moi je trouve que personne ne respecte toutes les traditions. Je trouve que ça perd tout son charme dans tous les mariages. Il y a les repas. Les invités, ils arrivent vers 19h. Quand ils arrivent dans la salle où se déroule le mariage, on leur propose à la porte un petit verre de lait avec une date fourrée à la pâte d'amande. Vers 21h, on leur propose du thé ou du café avec des petits apéritifs, les gâteaux maghrébins. Les cornes de gazelle, c'est un gâteau en forme de lune saupoudré de sucre glacé. Il y a les noix de coco, les gâteaux ronds, trempés dans la confiture d'abricot et ensuite dans la poudre de noix de coco. Il y a les macroutes, les gâteaux les plus connus, avec pâte de date, semoule, trempée dans le miel, souvent en forme de losange. Les braouettes, feuilles de brique en forme de triangle, fourrées au poulet ou à la cacahuète, sucrées ou salées, c'est comme on veut. Et braouette, en fait, ça signifie les lettres en arabe. Et vers 12h30, on leur sert le repas. Alors en entrée, on a souvent une salade composée. Au centre de l'assiette, en fait, on a un bol de riz, mais sans le bol, la forme d'un bol, en fait. Et autour, on a les tomates, concombres, céleri, un avocat fourré au crabe, pommes de terre, betteraves et carottes râpées, en fait, tout ce qui... Et tout ça servi sur des feuilles de laitue dans une grande assiette qu'on appelle un taos. C'est une genre de grande assiette en porcelaine. Ensuite, il y a le premier plat chaud qu'on appelle poulet zitoun. C'est un plat de poulet avec des olives vertes, avec une sauce oignon, persil, tomate, safran et tous les épices. Le deuxième plat chaud, c'est souvent de la viande ou du poisson ou du mouton cuit avec tous les épices marocains, du safran, du cumin, du poivre, avec des pruneaux et des amandes pour donner ce petit goût sucré aussi. Et puis, il y a le dessert. C'est un plat de fruits, raisins, bananes, pommes, fraises, poires, figues, oranges, clémentines. Et pour les enfants, on leur donne des esquimaux, des glaces. Et vers la fin de la fête, on sert le gâteau des mariés, un grand gâteau crème, comme dans les mariages français. Tout le monde se sert comme veulent, ils en reprennent, on en reprend. Et quand les invités partent, on leur offre un dragé. Il y a un mois de ça, je suis partie à un mariage et j'ai trouvé ça très original d'offrir un foulard blanc, un voile blanc, enveloppé dans du papier cadeau en forme de bonbon. J'ai trouvé ça très joli, j'ai beaucoup aimé.
Dine, dine,
parler de la fête de l'Aïd.
Bon, en fait, il existe deux sortes de l'Aïd. L'Aïd El Fitr, qui signifie la petite fête. Donc, en gros, la fin du Ramadan. Et l'Aïd El Kébir, qui signifie la grande fête, à laquelle tous les musulmans sacrifient un mouton. L'Aïd El Kébir est le souvenir du sacrifice de Ibrahim. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique et il était prêt à le faire.
Mais Dieu l'a arrêté et lui a sacrifié un mouton à la place de son fils.
Pour commémorer cette fête religieuse, les musulmans sacrifient selon leur moyen du mouton ou du bélier.
Comment ils le coupent ?
Ils le coupent sur le flanc gauche, la tête tournée vers la Mecque.
Ce serait bien de revenir sur les grands principes de l'islam et de réfléchir un petit peu à leur pratique aujourd'hui, la façon dont ils sont pratiqués par vous, pas par l'ensemble des musulmans, mais par vous. Alors, le premier pilier peut-être.
Le premier pilier de l'islam est la profession de foi, le devoir d'un croyant. Il consiste à réciter une phrase qui est qu'il n'y a qu'un Dieu et que Mahomet est son prophète.
Le deuxième
pilier de l'islam est la prière. Il y a 5 prières quotidiennes. Avant de faire la prière, il faut faire les ablutions. Purifier son âme et son corps. Prière, il faut être, recouvrir les cheveux.
Et est-ce que vous la pratiquez, vous, la prière ? Est-ce que vous pensez que c'est possible de la pratiquer en France aujourd'hui ? Et est-ce que vous la pratiquez ?
Le seul truc, c'est qu'avec les cours, on ne peut pas trop.
Et toi, Niel ?
Oui, c'est évident qu'on peut la faire, mais il faudra attendre la fin des cours et plutôt rattraper le soir. Mmh. Parce qu'en général, les prières, il faut les faire dans les heures, au bon moment. Donc, dans ces cas-là, on pourrait les faire, mais il faut attendre jusqu'au soir pour tout rattraper.
Le troisième pilier.
Le pèlerinage qui se dit en arabe Hajj. La situe à prier jour et nuit pour se faire pardonner des péchés que nous avons faits au cours de notre vie.
Et ça se passe où ?
En Arabie Saoudite, à la Mecque.
Parce que moi, j'ai déjà vu des maisons sur lesquelles étaient peints, par exemple, des avions ou des références aussi à la Mecque. Et est-ce que vous connaissez des gens qui l'ont fait ? Parce que je pense que les musulmans sont très fiers quand ils peuvent y aller.
Ben, c'est un budget quand même, parce que c'est pas... Faut avoir les moyens de se payer un billet pour aller jusque là-bas. C'est assez dangereux quand même. Il y a quand même beaucoup de morts par an. Donc oui, c'est vrai que c'est une grande fierté après avoir fait le pèlerinage.
Et vous connaissez des gens qui l'ont fait ? Qui ça ?
Mes tantes.
Ah oui. Et toi aussi, Laura ?
Oui, il y a ma grand-mère qui l'a fait et mon grand-père.
Et toi ?
Il y a mon oncle, mon grand-père, ma grand-mère, maternelle et paternelle.
Et ils en parlent encore ? Ils aiment bien en parler ou c'est quelque chose d'ancien dont ils parlent pas facilement ?
Ils en parlent, mais normalement, c'est personnel, c'est privé entre, oui. Entre la personne et Dieu. C'est un fort moment
d'intimité.
Voilà.
Le quatrième pilier.
Il y a l'aumône aux pauvres qui consiste à aider les plus pauvres et à aider son prochain.
Et puis le dernier.
Donc le jeûne. Donc Ramadan consiste à lutter contre nos désirs humains intérieurs. C'est un engagement privé entre Dieu et la personne. Le Ramadan se fait en un mois. En particulier, il y a plus d'un milliard de musulmans par an qui font Ramadan. Le nom Ramadan veut dire en arabe Ramadi ou Ar-Ramad. Signifie la chaleur, la sécheresse, comme quand on a soif, oui. Quand on a faim. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique.
Et vous pensez que c'est praticable en France aujourd'hui, le Ramadan ?
Oui, c'est praticable, mais faire attention à la tentation, parce que tout le monde ne fait pas Ramadan. Donc il y a des gens qui peuvent manger devant nous, et des fois, il y en a qui se font attentation.
À l'interdit alimentaire du porc, est-ce que vous trouvez que la cantine s'adapte et permet de le respecter ?
Ben, on mange du poisson, en fait. Ils nous font du poisson à la place.
Il y a toujours le choix.
Oui,
c'est ce qui est bien dans les cantines.
Nous allons vous parler de la pratique musulmane en France. D'après un sondage de l'IFOP, il y a plus de fréquentation dans les mosquées qu'auparavant.
On a aussi vu que la pratique religieuse est l'image plus positive de l'islam
dans l'opinion française. Donc en fait, elle est plus respectée.
La religion est acceptée. Mieux perçue.
Voilà. Donc on a aussi vu qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui allaient à la mosquée. Mais par contre, ils pratiquent plus la prière de tous les jours.
Je crois que tu t'intéresses à la Guadeloupe, Louise.
Oui. La Guadeloupe, c'est une île située à l'est des États-Unis, en fait, dans les Caraïbes. C'est une grande île composée de deux îles principales, la Grande Terre et la Basse Terre, donc qui forment le papillon. Mais il y a plein de petites îles autour, comme la Désirade, les Saintes, Marie-Galante, Saint-Barthélemy, Saint-Martin.
Mais quand tu dis qui forme le papillon, qu'est-ce que tu veux dire ?
À la Guadeloupe, en fait, quand on voit de la vue aérienne, ça, c'est comme un papillon. Il y a deux ailes qui partent sur le côté. À gauche, c'est la Basse Terre et à droite, c'est la Grande Terre. Elle a une superficie de 1780 km². C'est pas grand, hein. Vous êtes à un point de la Guadeloupe, en une heure, en voiture, vous pouvez aller à l'autre bout de la plage. Il y a environ 440 000 habitants. Au niveau du métissage, bien sûr, c'est de l'Europe, un métissage d'Afrique et d'Indiens. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'Indiens. Les premières populations, c'était des Amérindiens. La langue parlée, c'est le français. Tout le monde sait parler le français, mais il y a un créole guadeloupéen. Tous les créoles ne sont pas pareils. Le créole guadeloupéen, donc, c'est composé un peu de français, d'anglais et des langues africaines.
Tu le connais, toi, le créole ?
Un peu. Non, je ne sais pas le parler, mais on peut comprendre certains mots. Ça ressemble beaucoup au français. Hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Ensuite, pour parler de la musique, les jeunes de là-bas, ils écoutent plutôt beaucoup de musique jamaïcaine, la dancehall. Sinon, il y a du zouk, du rap créole.
Et ça se danse ? Ces gens dansent beaucoup ?
Oui, il y a vachement d'ambiance. Sur les plages, les jeunes, ils vont ramener les baffes. Les filles, elles vont danser. Il faudrait que je vous montre des vidéos, mais je peux pas. Je sais pas danser la dancehall, mais c'est particulier. Que les noirs qui savent danser. L'année dernière, je suis allée en Guadeloupe pendant deux semaines. Je suis partie à Sainte-Rose, c'est à la Basse-Terre. C'est à côté de Lamantin, c'est à 15 minutes de Pointe-à-Pitre, 15-20 minutes. Et j'y suis restée pendant deux semaines, j'ai fait un peu tout le tour, de toute façon c'est pas grand. Hein. Plage de la Perle, à côté de Dieppe. Je suis allée Pointe-Noire, Bouillante, Goyave, Pointe-à-Pitre, Bémao, Gosier, Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est vraiment la ville la plus touristique de toute la Guadeloupe. Hein. Tous les touristes, pratiquement, ils vont là-bas, donc c'est là qu'il y a le Club Med. Je suis allée aussi à la cascade des Écrevisses, ça, c'était magnifique. C'est une cascade dans la forêt tropicale. Vraiment, on sent l'humidité, l'odeur. Je suis allée aussi sur le volcan. Je ne suis pas montée tout en haut, mais je suis allée à une certaine partie où on a une vue splendide sur les Saintes, sur la mer, c'est vraiment magnifique. Après, j'ai fait aussi une balade en jet ski toute une journée. Je suis partie dans des lieux, je me disais, les cartes postales, ça n'existe pas. Je voyais les cartes postales, je me disais, non, c'est impossible, ça n'existe pas. Et je suis allée à l'île Écarrette, et là, c'était dans la carte postale, hein, vraiment, le paradis, les cocotiers, une petite île, toute petite. Mais alors, l'eau bleue turquoise, les cocotiers, vraiment magnifique.
Et beaucoup de touristes ?
Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais sinon, ouais, c'est un endroit connu. Les pêcheurs, même les Guadeloupéens, ils vont là-bas. Hein. Dès qu'ils ont un jour de congé ou le week-end, ils vont tous en bateau là-bas. J'ai mangé aussi des plats qui n'étaient pas pareils qu'ici, comme le colombo. Colombo, c'est du poisson avec puis surtout au curry. En fait. Après, il y a le rhum, il est différent. Le rhum, notamment le damoiseau, moi, je trouve que c'est trop bon. Puis certains fruits comme la goyave, la banane plantain.
Et tu veux y retourner ?
Ah ouais, j'aimerais bien.
T'as des attaches là-bas ?
Ah ouais, j'ai quelques amis là-bas que j'ai rencontrés là-bas. Et même vivre plus tard là-bas, ça me dérangerait pas, au contraire, j'aimerais bien.
Et t'as de la famille aussi ou...
Non. Des amis à mes parents, des amis proches. Et ma famille aussi, mon oncle est allé là-bas pour faire son service militaire de médecine. Pendant deux ans, il a habité là-bas. Mon père, il avait été aussi, mais...
Écoute ma déclaration d'amour. Je fais ma déclaration d'amour.
Va nous parler de la Commedia dell'arte.
La Commedia dell'arte est apparue dans la première moitié du XVIe siècle en Italie. C'est une vraie révolution dans l'art du théâtre parce que littéralement Commedia dell'arte veut dire théâtre professionnel, ce qui veut dire que les acteurs se font payer pour présenter un spectacle, ce qui ne se fait pas dans les autres pays où ce sont des bénévoles. Les acteurs italiens qui se produisent sont de vrais acteurs, ce sont vraiment leur métier, ce ne sont pas des amusants en fait qui font leur passion. Ils se servent de masques, ce qui les lie étroitement au carnaval pour s'amuser de la culture et... Ils représentent l'Italie en eux-mêmes parce que les acteurs qui composent la troupe, qui est de 9 à 15 personnes, viennent de toute l'Italie, représentent toutes les provinces, tous les accents qu'on peut trouver dans l'Italie. Il existe 4 grandes catégories de personnages dans la Commedia dell'arte. Les Zanni, qui sont les valets du peuple, où on y retrouve Arlequin, qui est joyeux et vivant. Scaramouche, qui est le côté méchant d'Arlequin. Il y a aussi la catégorie des vieillards, qui sont les citadins, avec Pantalon qui est un vieux barbon et amoureux d'une jeune fille, et le docteur qui est un peu adepte de l'alcool. Il y a les soldats qui sont fanfarons mais qui sont très souvent peureux, avec le capitaine qui est souvent décrit avec un nez droit et fier, qui lui donne un air hautain. Et les amoureux avec Colombine et... qui est souvent confondu avec les Annie, qui sont décrits comme ingénus, mais qui sont surtout ingénieux pour tromper les vieillards, surtout Pantalon, qui est amoureux d'une fille qui n'est pas vraiment recommandée, on va dire.
Donc, ce sont toujours les mêmes personnages qu'on retrouve dans la Commedia dell'arte.
Ce sont toujours les mêmes personnages. Le seul élément qui change, c'est le scénario. Quand la Commedia dell'arte apparaît, ce sont simplement des canevas, donc des scénarios bien ficelés autour duquel les acteurs font des gestes pour argumenter. Mais par la suite, au XVIIIe siècle, Carlo Goldoni va révolutionner le théâtre avec un scénario bien ficelé avec lequel les acteurs devront avoir un texte bien défini sans enlever la pointe de satirisme et de comique des acteurs qui, au lieu que ce soit par geste, le fait par parole.
J'aimerais bien que tu me fasses un peu découvrir ce que c'est qu'un manga.
Un manga, c'est une BD japonaise. Donc, ça se traduit littéralement par image dérisoire. C'est totalement différent des BD européennes. Donc, elles se distinguent par leur scénario. Et les dessins, pas toujours très originaux, mais avec des styles vraiment très spécifiques. Par exemple, les grands yeux, un petit nez, des petites bouches ou des têtes. Surtout pour les shoujo, des têtes plutôt pointues.
Pour les
shoujo. Donc, c'est. Les shoujo, c'est des mangas. Dessiné plus particulièrement aux filles. Donc on y retrouve surtout des grands yeux avec des tout petits nez. Et il y a beaucoup de détails et les personnages sont pas toujours faciles à discerner en fait. Donc on y retrouve Nana, assez connue, Free Basket, Vampire Knight.
Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces personnages?
Les histoires sont...
Nana par exemple, c'est qui ce personnage de Nana?
Nana c'est l'histoire d'une deux filles qui se rencontrent dans un train. Qui sont toutes les deux pour Tokyo. Et elles portent le même prénom, elles ont le même âge. Donc elles habitent dans le même appartement. Et il y en a une, c'est une chanteuse, et qui essaie de devenir célèbre. Et l'autre, elle essaie de faire sa vie à Tokyo. Et ça se base surtout sur la réalité. Dans les shonen, on trouve beaucoup de paysages...
Dans les quoi?
Les shonen, c'est des mangas dessinés à garçons. Donc on y retrouve Naruto, Dragon Ball Z. Mais il y a beaucoup de bagarres et tout dedans. Et surtout, on retrouve beaucoup de paysages dans les seinen. C'est des mangas plus dessinés aux adultes qui sont moins idéalistes. Et les histoires sont plus sombres. Donc souvent, ça se passe à l'époque des samouraïs. Donc on apprend beaucoup de choses sur l'histoire du jeu.
Mais c'est pas dessiné qu'aux garçons, alors?
Non, tout le monde peut les lire. On dit que c'est plus dessiné aux garçons parce qu'il y a moins de détails. Il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de combats, beaucoup d'arts martiaux. Et tout.
Il n'y en a pas en couleur?
Des mangas en couleur, non. Peut-être les premières pages des premiers tomes, la plupart du temps, sont en couleur, mais sinon, non, c'est toujours en noir et blanc. C'est ce qui fait la spécialité, la particularité du manga. Et ça se lit de droite à gauche, donc le sens de lecture originale du japonais.
Oui. Et toi, alors, est-ce que tu en lis beaucoup des mangas?
Ouais, quand même. Moi, j'aime bien les lire et les relire, parce que je trouve ça intéressant, et surtout les mangas comiques. Par exemple... Free Basket, c'est un shoujo. C'est très comique. C'est l'histoire d'une orpheline qui rencontre les Soma. Et cette famille, quand ils sont en contact avec une personne du sexe opposé, ils se transforment en animaux du signe du zodiaque. C'est très marrant. C'est assez connu aussi.
Et les dessins sont comment? Tu peux décrire un peu?
C'est typique manga avec les grands yeux, petit nez, la tête, les têtes vraiment pointues, les carrures minces. C'est vraiment typique. J'ai aussi des shonen. Donc les derniers qui viennent de sortir, Fairy Tail et Solitaire, je pense pour moi que c'est un manga à pas manquer, en fait, à pas rater, parce que c'est vraiment très marrant. Il y a du combat, du comique, enfin, il y a tout ce qu'on peut trouver dans un shonen.
Ça raconte quoi ?
En fait, c'est l'histoire de trois jeunes manières qui veulent devenir des manières confirmées. Et eux, ils utilisent des armes humaines, en fait. Ils peuvent se transformer, et ces armes humaines peuvent se transformer en choses diverses. Et ils doivent manger des âmes, 99 âmes de démons, plus une de sorcière, pour pouvoir devenir des Deicide, c'est-à-dire des armes beaucoup plus puissantes et beaucoup plus améliorées, des armes démoniaques, en fait. Et il y a vraiment tout dedans, c'est super.
Et alors, lesquelles tu as envie de lire bientôt, là ? Tu sais ce qui sort ?
Ce qui sort, je lis vraiment seulement ceux qui viennent de sortir, Fairy Tail, Life aussi. C'est un manga, c'est un shoujo qui reflète une certaine réalité chez certains ici en japonais. Enfin, y a beaucoup de choses à voir dans les mangas.
Je m'intéresse aux jeunes filles japonaises et je voudrais savoir à quel âge commence-t-elle l'école.
Mais le système scolaire, c'est le même que le nôtre. En fait, on commence dès la maternelle et c'est obligatoire jusqu'à la fin du lycée. Voilà, donc une fois qu'elles obtiennent leur bac, elles peuvent aller dans des universités et facultés, pareil qu'en France.
Et une fois qu'elles ont obtenu leur diplôme, en fait... C'est pas obligatoire pour elles de continuer, elles peuvent très bien se mettre à travailler. Et donc le système est le même qu'en France, sauf que la classe de 6e est inclue dans l'enseignement primaire.
Et ça serait pour savoir aussi à quel âge portent-elles des uniformes ?
Tout le temps, dès le début, dans certaines écoles, surtout les écoles privées, dès la maternelle, les filles comme les garçons ont l'uniforme.
Par exemple, dans le lycée dans lequel j'étais, c'était un catholique privé. Et on voyait dans l'enceinte de l'établissement, il y avait de la maternelle, enfin du jardin d'enfants jusqu'au lycée. Et il y avait un uniforme pour chaque classe, en fait. Et c'est tout le temps. Après, il y a juste dans les publics, quelquefois, on autorise peu à peu à porter des vêtements de tous les jours.
Est-ce que c'est une obligation de porter un uniforme ?
Comme je viens de le dire, ça dépend des écoles. Moi, comme Charlotte, j'étais dans une école privée. Donc, dans les écoles privées, en général, oui, on est obligé de porter l'uniforme. Mais il y a de plus en plus d'écoles publiques où l'uniforme n'est pas obligatoire. Elles peuvent le mettre si elles le veulent, mais...
Plutôt à caractère festif dans ces cas-là.
Voilà.
Des événements où...
Généralement, elles préfèrent faire comme nous, comme les pays européens, américains, avoir leurs propres vêtements.
Qui décide pour la longueur des jupes ?
Généralement, c'est le proviseur, mais les lycéennes, on ne peut pas cacher le fait que dès qu'elles arrivent au lycée, elles remontent leurs jupes. Enfin, c'est vraiment au feeling, si je puis dire. Mais par contre, des fois, il y a des inspections surprises, et là, il suffit qu'une jupe soit trop courte ou... Un nœud mal fait, des boucles d'oreilles, et là, ça dégénère un peu.
Et moi, dans mon lycée, la prof m'a dit que c'était les filles qui pouvaient choisir la taille de leur jupe. Enfin, il y avait une jupe, une taille minimale à respecter. Et c'est vrai que souvent, les filles, on les voit quand elles sortent du lycée, elles remontent un peu les jupes. Mais bon, sinon, on peut dire que c'est elles, entre guillemets, qui choisissent la taille de leur jupe.
Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu... les filles avec des jupes aussi courtes qu'en France, quand même.
Ah, je me suis dit, elles vont avoir froid. Elles doivent être gelées, les pauvres. Parce que c'est vrai qu'au Japon, il fait très vite froid le soir. Donc à 4 heures, il fait noir. Donc qu'il fait pas très très chaud, et quand on les voit avec les mini-jupes, c'est pas choquant. Par rapport en France, on verrait une fille avec mini-jupe, on dirait oh, celle-là avec ses mini-jupes. Mais eux, elles sont toutes comme ça, et puis il y a aucune discrimination là-bas. Ils sont tellement tolérants que la seule chose que je me suis dit, c'est qu'ils vont avoir froid.
Et puis de toute façon, personnellement, j'étais à Tokyo, et je veux dire, les quartiers là-bas sont tellement sûrs qu'une fille en mini-jupe, il lui arrivera rien, quoi. Tandis qu'en France, une fille en mini-jupe, elle fait pas 3 mètres, quoi.
La mini-jupe, ça n'a pas du tout la même...
La même valeur.
La même valeur en France qu'au Japon. Au Japon, c'est fait partie de l'uniforme et ça choque personne. Toutes les filles sont en mini-jupe, donc c'est pas choquant, en fait. C'est plutôt nous que... Enfin, moi, j'avais pas l'uniforme, mais c'est plutôt moi qui choquais avec mon jean et mes baskets que les filles qui ont en mini-jupe.
Puis, quand êtes-vous allé au Japon?
Donc, c'était du 27 octobre 2008 au 18 novembre 2008. Voilà.
C'est tout.
Par contre, en parlant tout à l'heure, j'ai fait une petite faute. L'enseignement en France, il est donc obligatoire jusqu'à 16 ans, mais là-bas, c'est 18 ans. C'était juste pour revenir sur ce petit point.
J'ai vu que tout à l'heure, tu tenais un truc dans ta main. Je voudrais savoir ce que c'est.
Alors, ça s'appelle un kailo, pardon. Ça existe en France, mais c'est beaucoup moins courant et c'est beaucoup plus cher. Ça s'appelle une chauffette, ils appellent ça en France. C'est une espèce de une petite poche en papier avec un... Je sais pas ce que c'est, non, c'est...
C'est quelque chose qui fait qu'au contact de l'air, il y a une réaction chimique, en fait.
Voilà, et ça chauffe. Donc, en fait, quand on l'a, c'est froid, c'est tout plat, et puis il faut le secouer dans tous les sens, et puis ça chauffe. Et ça tient chaud. Comme on le disait tout à l'heure, il fait très froid là-bas, et les Japonaises en ont beaucoup. Elles les mettent dans leur poche, ou les gardent dans la main. Ça leur tient chaud.
Tu nous parles du Cameroun, Stella ?
Le Cameroun, c'est un pays d'Afrique centrale. Il est situé entre le Nigeria et le Tchad. Le Cameroun, comme tous les autres pays africains, a connu des périodes difficiles, comme les guerres civiles, tout ce qui est les problèmes sociaux, les conditions de vie. Le Cameroun a des gros problèmes politiques, comme le président Paul Biya étant notre président depuis 1992. Le président, il ne sait que parler, dit des bonnes paroles devant l'Assemblée, mais... On ne voit pas des actes qu'il fait par rapport à ses paroles. Et dans le Cameroun, est toujours un pays pauvre, en difficulté. Cela crée des guerres civiles, des populations qui se révoltent. Il y a beaucoup de voleurs qui viennent, qui pillent les maisons, qui cassent tout. C'est dangereux.
Et surtout où ?
Ça c'est situé vers Douala, la ville de Dokoti. C'est une ville un peu très pauvre, en fait, quoi. Douala possède une région... Ça s'appelle Dokoti ou Maboum. Maboum, c'est une ville très pauvre. Et Dokoti, c'est aussi très, 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 très pauvre. Quand par exemple, à Dokoti, il n'y a pas de voiture. Les gens se circulent en vélo. Ou bien les gens vont à pied. Les maisons sont tout cassées.
Et d'un point de vue personnel, ta famille, comment on vit ça, ces difficultés politiques?
Enfin, dans ma famille, c'est difficile. Déjà, dernièrement, ma famille, nous avons reçu l'appel de notre oncle. C'était l'année dernière. En fait. Mon oncle nous avait appelé pour nous annoncer que Kamote en conflit. La population qui s'est révoltée, qui venait piller les maisons, les boutiques, les magasins. Mon oncle en a pillé sa boutique. Donc, il a dû reconstruire sa boutique. Et aussi, pendant ces périodes-là, personne ne pouvait sortir. Si tu sortais, on te tuait ou bien on te prenait en otage et demandait de l'argent à ta famille. Et j'ai une de mes tantes qui a été prise en otage. Ils ont demandé 3 millions d'euros, mais on n'avait pas cet argent. Donc on a demandé à la police, mais la police ne pouvait rien faire parce que Même les policiers n'avaient pas d'autorité sur, sur la population. Mon oncle et toute la famille ont dû faire leur propre enquête. En fait, ils ont retrouvé ma tante plus tard dans une autoroute abandonnée. Ça fait depuis 3 jours qu'elle était là quand on l'a retrouvée. Elle était blessée, elle avait des problèmes, quoi. Elle était fatiguée physiquement, elle était choquée, c'était horrible. Enfin, moi, j'étais pas au Cameroun, mais déjà, grâce à ces reportages de mon oncle et de ma tante, j'imagine que c'était horrible. C'est ça, l'Afrique.
Et là, ça va mieux, la situation est moins tendue ou...
Pour le moment, je pense que ça s'est un peu calmé parce que dernièrement, on a eu des nouvelles du Cameroun et apparemment, il paraît que le président a décidé d'abandonner ses fonctions. Dans ma famille, tout le monde croit que c'est mieux qu'il abandonne ses positions parce qu'il ne sait pas diriger le pays. Mais pour l'instant, c'est très calme en fait. Il n'y a plus de soucis, les gens sont un peu mieux en paix.
Tu peux nous parler de certaines croyances religieuses au Cameroun, s'il te plaît, Stella?
Le Cameroun, c'est aussi un pays, il y a beaucoup de religions, beaucoup de langages. Et le Cameroun, la magie a une place très importante. Comme la sorcellerie, il y a beaucoup de sorciers, de sorcières. En fait, au Cameroun, tout le monde a peur de ça. Tout le monde craint la magie. Dès qu'on parle de sorcellerie, tout le monde fuit, se cache. Moi, je me rappelle quand j'avais 6 ans, j'étais tombée d'une chaise. Ma mère m'avait raconté que j'étais un peu devenue folle. J'étais n'importe quoi. Je disais des phrases qui n'avaient pas de sens. Et ma mère, elle a eu peur. Donc, ils m'ont amenée un jour chez un marabout. Et moi, je ne comprenais pas où mes parents m'amenaient comme ça. Je me rappelle du lieu, c'était un peu c'était bizarre, c'était très spirituel. Je sais pas, je vois des masques, des poupées. T'avais l'impression que ça te fixait. J'avais très peur. Parlons de l'atmosphère, c'était très froid. J'avais peur, j'étais une petite fille. En même temps, j'étais fascinée parce que c'était... S'il faisait sombre, tu vois le sorcier qui t'aurait comme ça, ses gros yeux. Et là, sa chaîne sur le cou commence à tourner ça autour de toi. Il commence à parler la langue. Moi, je comprenais pas. J'étais comme ça, je regardais avec des grands yeux. J'étais fascinée. En même temps, je pleurais. Je comprenais pas. Et après, quand il a fait sa magie sur moi, moi, je n'ai rien ressenti de différent sur moi. Comme si j'étais allée voir le médecin. Hein. Pour moi, c'est la même chose. C'était rien. Après qu'on est rentré. Le soir, quand j'allais me coucher, commence à me sentir bien. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'avais envie de sortir, m'amuser, crier. J'avais envie de faire tout. Hein. Quand je rentrais de la séance chez le marabout, j'étais fatiguée, j'avais sommeil. Je me sentais quand même bien. Mais là, ce soir, quand j'allais me coucher, j'étais joyeuse. Je voulais crier. Je suis allée voir mes parents. J'ai dit « Maman !» Je criais comme une malade. Je cassais tout. Et après, ma mère, elle a fait « On va aller demain chez le marabout encore. » Après, moi, j'ai dit « Maman, ta magie ne marche pas. Hein. Moi, je suis humaine et ça ne marchera jamais. » C'est juste pour vous dire que la sorcellerie, ça a des aspects vrais, des aspects faux. Mais je peux vous dire que la sorcellerie, au Cameroun, tout le monde croit à ça. Dès qu'une personne parle de ça, il a peur que... Faut l'éviter. Même dans la politique, la magie prend une place importante. Par exemple, le président, tout le monde a peur du président. Il y a tellement d'histoires qui racontent que telle personne dans sa famille a tué ça, ou bien que sa femme est une sorcière. Il y a tellement d'histoires, tout le monde a peur. Donc, Camus, c'est un peu bizarre.
Fais-moi découvrir un petit peu la musique camerounaise, Stella.
Le Cameroun est un pays où l'art prend une place importante, comme la musique, qui est un grand art au Cameroun. Même si les musiques se ressemblent, ils ont un style de danse. Par exemple, le mapuka, qui est une danse très connue à Dakar ou aussi à Douala. C'est une danse très audacieuse. Il faut être culotté pour danser comme ça. C'est pas fait pour les personnes qui sont timides et qui ne sont pas audacieux, qui ne savent pas oser. Le mapuka est une danse qui se danse très sensuellement. Il faut danser avec le postérieur, il faut bouger rapidement. C'est beaucoup d'Africains aiment ça.
C'est très rythmé?
Ouais, il faut danser rapidement. Et c'est, ça bouge, tout bouge à tout ton corps en fait. Tes pieds, ça bouge, tes fesses, tes bras, tout, même ta tête, il faut que tu bouges.
Et ça se danse tout seul ou à deux?
Non, ça peut être personnel ou avec deux personnes. Il y a même des femmes dans des pays qui abandonnent le style de la minceur, qui veulent avoir un postérieur adapté au Mapuka. Il y en a, c'est beaucoup plus les femmes qui habitent à Dakar, aussi à Douala, quoi, dans ma ville. Natale. Et bon, moi, ce que je porte du Mapuka, c'est une belle danse. J'ai jamais essayé. J'ai vu des gens danser, mais j'aime bien.
Quand dans ta famille, les gens le dansent?
Ma mère, elle danse ça. Mes grandes sœurs aussi, elles dansent ça. Non, moi, j'aime bien. C'est très communicatif. Tu peux danser avec une autre personne. Tu peux communiquer tes sentiments, tes émotions. Mais après, il n'y a pas que ça comme style de danse en Afrique. Il y a aussi le soul, le makossa. Alors, le makossa, c'est une danse vraiment très connue dans tous les pays africains. Tu vas dans tous les pays, tu demandes ce que c'est un makossa. Tout le monde se dit que c'est une danse qui se danse... avec deux personnes. C'est une danse qui bouge aussi beaucoup. C'est comme le Mapuka, mais pas très audacieux. Mais c'est comme ça, on te demande de danser du R&B, du hip-hop, et tu bouges avec tous tes bras, tu sautes. T'es aussi très sensuel. C'est très beau comme danse. Et moi, j'aime bien.
Tu as des noms de groupes de musique qui permettent de danser ces danses?
Oh, j'en ai beaucoup. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de chanteurs que j'adorais vraiment. En fait, c'est ma mère qui m'a initiée à ça. Et ma mère, elle avait une chanteuse qu'elle aimait beaucoup. Elle s'appelle Grace Deka. C'est une chanteuse camerounaise. Elle a fait des styles de musique comme le makossa, que j'ai bien aimé. En 1995, je ne sais pas encore ni, je crois. Je l'ai déjà dit. Hein. Elle a fait Passion, c'est le titre de son disque. Et j'ai beaucoup aimé. Oh là là, le refrain, si vous écoutez...
Tu vas nous le mettre?
Bah bien sûr, ne vous inquiétez pas.
Et d'autres?
Il y a aussi Shanta Aizi, elle aussi, elle fait des musiques de style makossa. C'est comme Grace Deka, mais elle, trop émotive comme musique. Mais il y a aussi Petit Pays, lui par contre sa musique c'est mélangé, makossa, mapuka, le sou, le bikutsi, ça se mélange et c'est bien, moi j'aime bien.
Et est-ce qu'il y a des tenues particulières pour les danses?
Quand je vois des clips, je vois tous les danseuses, elles portent des collants très serrés et des baskets, elles sont toujours en basket ou deux fois elles n'ont pas de chaussures, elles sont pieds nus. Des petits t-shirts comme ça pour bouger, qu'on voit, des t-shirts moulants quoi.
C'est pas des vêtements traditionnels?
Non, ce sont des vêtements modernes. Sinon, j'ai d'autres types de musique. Il y a aussi le bikutsi, je danse connu à Dakar aussi, connu aussi au Gabon, au Bénin. Il y a aussi le soul, ça c'est plus un peu antillais, mais aussi, c'est aussi un style de danse aimé en Afrique.
Et au Cameroun aussi?
Ouais, au Cameroun. Ouais, le Cameroun, oh là là, le Cameroun, ça a différents types de danse. Il y en a tellement. Il y en a trois à citer, quoi, c'est trop. Et il y a aussi l'Azika. C'est un peu classique, mais ça se danse au sol, en fait. C'est comme la danse contemporaine, mais très, très lent. Mais...
Et toutes ces danses, elles se dansent où?
En boîte.
Simplement en boîte?
Non, ça se danse aussi lors des fêtes et des soirées, des mariages.
Merci aux élèves du lycée Montebello de Lille pour cette émission Citoyens du Monde. Mama.
kegisa tsuwe mene la mio aye. Etomi ma kobina mi kegisa.